Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Edowani Wamakaran.
Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chenibiro.
Halud Mounde.
Chenibiri. Sigi Kafoba.
Le Grand Dialogue.
Le Grand Dialogue. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous sommes mardi 9 septembre 2014. Bienvenue à ce grand dialogue du studio Tamani. Le grand dialogue d'aujourd'hui parle d'alphabétisation au Mali. Nous ferons successivement le lien entre l'alphabétisation et l'éducation formelle dans le pays. Nous verrons quels en sont les impacts socio-économiques. Nous verrons également si le Mali a les moyens pour renforcer son programme d'alphabétisation. Nos invités, Adama Samasekou, ancien secrétaire exécutif de l'Académie africaine des langues et ancien ministre également de l'éducation, Gourou Dial de la Direction nationale de l'éducation non formelle, de l'alphabétisation et des langues nationales, Kadidiatou Babi Maïga de l'Association pour la promotion des filles déscolarisées. Je suis Famoussa Sidibé. Merci messieurs, merci madame pour votre disponibilité. Petting Diarra est à la mise en onde.
Studio Tamani.
Les taux d'alphabétisme augmentent et l'on prend le plus en plus conscience de l'évolution générale des besoins dans ce domaine nécessite la mise en œuvre de moyens innovants. Pourtant, plus de 774 millions de jeunes d'adultes et d'adultes, soit près d'un adulte sur cinq, n'ont actuellement pas les compétences de base nécessaires en matière de lecture, écriture et de calcul pour participer pleinement à la société. Alors, le premier volet de cette émission, l'alphabétisation et l'éducation non formel, quel lien peut-il exister entre ces deux programmes, Monsieur le ministre Adama Samasekou?
Merci beaucoup, Monsieur Sidibé. Je voudrais d'abord saluer vos auditrices et vos auditeurs et me réjouir de cette opportunité qui nous permet d'évoquer une question fondamentale. Avant de répondre à votre question, le lien entre le formel et le non formel, je voudrais peut-être préciser que c'est seulement dans nos pays anciennement colonisés, qu'on parle surtout d'alphabétisation. Cela est important parce que ça montre que l'analphabétisme tel qu'il est vécu aujourd'hui est un héritage du système colonial dans son ensemble. C'est-à-dire que le système dont nous avons hérité au niveau de la colonisation a fait en sorte que dans le processus d'éducation, il y a eu une rupture de plus d'éducation de nos pays. Une rupture avec l'introduction de l'école occidentale où l'éducation se fait dans une langue qui n'est pas celle des apprenants. D'où le fossé qui se creuse entre la famille de l'apprenant et l'institution scolaire. Et de plus nous avançons, plus ce fossé va se creuser tant que nous n'allons pas être en mesure de remettre à l'endroit le système éducatif, c'est-à-dire faire en sorte que l'école, notre école, soit vraiment une école malienne, une école africaine. Je dis ça pour pouvoir justement répondre à votre question. La différence entre le formel et le non formel, ou l'alphabétisation, c'est parce qu'effectivement, dans tous les pays du monde, le système scolaire, c'est le système où tout l'apprentissage se fait en complémentarité avec l'apprentissage familial, dans l'espace familial. Chez nous, puisqu'il y a cette rupture, eh bien, nous avons été obligés de développer dans tous nos pays ce qu'on appelait le système non formel, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas dans le processus des écoles, depuis l'école maternelle jusqu'aux écoles spécialisées, en parcourant tous les segments de l'enseignement, le préscolaire, le fondamental, le secondaire, l'enseignement supérieur, les universités. Tout cela, c'est donc le système formel. Et le système non formel, c'est tout ce qui se fait en dehors des établissements scolaires, dans le cadre d'une systématisation de l'éducation des adultes, parce que ça a commencé par ça, qui s'appelle alphabétisation. La plupart du temps, d'ailleurs, cette éducation se faisait le soir dans les structures scolaires qui ont été libérées par les enfants. Et progressivement, ce non formel a été renforcé par des structures qui s'adresse non pas seulement aux adultes, mais aussi aux jeunes déscolarisés ou qui ont, n'ont pas pu continuer l'école, poursuivre l'école, les CED, et ça touchait aussi les femmes. Donc, et en réalité, ça aussi, ça s'est prolongé, surtout dans le milieu rural. Voilà en gros ce qui a fait cette rupture. Et je crois que la grande question pour nous aujourd'hui, c'est est-ce qu'il faut continuer comme ça? Parce que, en fait, tout ce que nous injectons dans notre système éducatif, que ce soit le formel ou non formel, constitue presque une sorte de tonneau des Danaïdes d'aujourd'hui.
Alors, nous avons également le directeur national de l'éducation non formelle, de l'alphabétisation et des langues nationales, Monsieur Dial, Gourou Dial. Est-ce que cela ne fait pas trop de titres, trop de dénominations pour une seule structure ?
Je ne pense pas que ça soit trop pour une structure, dans la mesure où elle est créée pour une mission bien déterminée. C'est-à-dire prendre en compte non seulement l'éducation des adultes, des déscolarisés, comme l'a dit M. le ministre, mais aussi faire la promotion des langues nationales. Donc il faudrait le faire en même temps. Il ne s'agit pas peut-être de s'occuper seulement de l'éducation des adultes, mais aussi faire la promotion des langues nationales. Comment pouvons-nous arranger, harmoniser, réajuster ce développement harmonieux des langues nationales et de l'éducation des adultes? Et on s'est rendu compte dès le départ que apprendre dans sa langue est la meilleure manière pour apprendre vite et bien. Et c'est pour cela que les premiers pionniers de l'indépendance se sont orientés vers la langue nationale. En voici un, il fait partie des premiers qui ont posé les jalons de l'alphabétisation ici. Donc c'est déjà, pour nous, c'est un modèle, une référence. Donc nous allons essayer de pousser encore jusqu'au bout pour atteindre les objectifs qu'il s'était assigné depuis les années de l'indépendance. Donc l'alphabétisation et les langues nationales, c'est quelque chose qui va forcément ensemble pour une bonne réussite.
D'accord. Alors, Madame Khadijatou Babi Maïga, vous êtes de l'Association pour la promotion des jeunes filles déscolarisées. Vous êtes très active dans le domaine de la scolarisation des enfants. Aujourd'hui, quel lien est-ce que vous pouvez faire entre l'alphabétisation et l'éducation formelle au Mali?
Merci, Monsieur Msidibé. Je voudrais me joindre à mon oncle Samasekou, vraiment, et à M. Dial, vraiment, pour saluer vos auditeurs et vous remercier de nous avoir donné cette opportunité. Donc, l'alphabétisation, c'est un outil extrêmement important. Vous savez, M. Dial est là, nous avons quand même à peu près 70% de notre population analphabète, c'est ce que c'est dit. Et imaginez alors quel type de développement vous pouvez faire avec une population analphabète. Comment est-ce qu'ils peuvent s'approprier de nos politiques? Qu'est-ce qu'ils peuvent comprendre? Comment est-ce qu'ils peuvent participer efficacement? Donc vraiment, pour le type de société que nous voulons, je pense qu'il est indispensable déjà que nous donnions suffisamment d'importance vraiment à cette alphabétisation. Et comme on le dit, comme il vient de le dire effectivement, quand on apprend dans sa langue nationale, dans sa langue maternelle, on apprend mieux parce qu'il n'y a pas de rupture, parce que ça devient naturel. Ceux qui étudient en français en France, ils n'ont pas de difficulté parce qu'ils parlent le français à la maison, ils retrouvent ça à l'école et ils retrouvent ça encore en famille. Et nous avons cette rupture que nous vivons et il est extrêmement difficile peut-être de faire face.
Alors aujourd'hui, vous avez mis un accent plus pointu sur la déscolarisation des jeunes filles.
Oui.
Pourquoi cette discrimination?
Oui, ça c'est tout un autre débat si vous voulez. Je pense qu'on va en parler.
Okay.
Mais pour faire le lien, comme vous l'avez demandé, entre le formel et le non formel, je vais vous donner peut-être quelques chiffres. Rectifier d'abord ce que vous avez dit. Vous venez de dire qu'il y a 774 millions d'adultes. L'UNESCO a annoncé la semaine passée que c'était 781 millions d'adultes, avec les deux tiers sont des femmes. Alors, comprenez pourquoi je mets l'accent sur les femmes. Et pour faire le lien maintenant entre le système formel et le système non formel, dit non formel, j'aime pas beaucoup ce terme, mais bon, c'est le système consacré, tout le monde l'utilise. On dit qu'il y a, l'UNESCO annonce encore qu'il y a 250 millions d'enfants qui ne savent ni lire, c'est-à-dire qui ne savent pas déchiffrer une phrase. Et la moitié de ces enfants ont été à l'école jusqu'en quatrième année. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que notre système a des problèmes. Notre système dit classique, formel, a des problèmes. Et nous avons besoin de ces langues nationales-là, n'est-ce pas, pour que les enfants peut-être s'approprient n'est-ce pas, de cet outil de base qui est quand même la lecture, l'écriture et le calcul, n'est-ce pas, pour pouvoir, n'est-ce pas, s'intégrer dans le système. Il est extrêmement important que vraiment il y ait le lien entre le formel et le non-formel. Encore une fois, M. Samasekou avait initié cela. Vous vous rappelez de la NEF, vous vous rappelez du bilinguisme.
Heureusement qu'il est là pour en débattre.
Ben voilà, donc vraiment, aujourd'hui, il s'avère que c'était utile. Évidemment, ça a évolué, il y a eu de l'innovation là-dedans, mais ça reste, l'essentiel de la question reste là. Comment introduire les langues nationales, n'est-ce pas, dans l'apprentissage des enfants du classique.
Alors, Monsieur Samasekou, vous êtes, je le rappelle, ancien ministre de l'Éducation et ex-secrétaire exécutif de l'Académie africaine des langues. Aujourd'hui, au Mali, le Mali tente d'introduire les langues nationales même au sein de l'éducation formelle. Comment est-ce que cette introduction peut se faire sans pour autant bousculer le cursus normal scolaire?
C'est une vaste question. En réalité, je crois que c'est plutôt la perspective qu'il faut préciser. En fait, le Mali, grâce aux efforts qu'il a eu à faire en matière d'alphabétisation, parce que la spécificité de l'alphabétisation fonctionnelle au niveau du Mali, c'est que ça se faisait dans nos langues nationales, ce qui est différent de la plupart des États africains qui faisaient de l'alphabétisation en français. Donc le Mali a très tôt opter pour le faire dans nos langues nationales. Ce qui a démontré, pour ceux qui en doutaient, que nos langues étaient capables de véhiculer tous les mécanismes d'apprentissage à tous les niveaux. Ça a poussé le Mali à envisager la création de l'Institut National d'Alphabétisation Fonctionnelle, l'INAFLA, à l'époque, en 1973, qui est devenu après la Direction Nationale d'Alphabétisation Fonctionnelle et de la Linguistique Appliquée, en te disant: nous avons suffisamment capitalisé au niveau de l'alphabétisation. Il faut voir comment introduire nos langues dans le formel. Des classes ont été mises en place assez rapidement au niveau de la première génération par rapport au Bamanankan, au Fulfulde et au Sonrai. Assez rapidement, ces classes ont montré que si l'on ne prenait pas en compte l'articulation entre nos langues nationales et le français, on va avoir des difficultés pour continuer par la suite. Il y aura plus une césure. D'où une deuxième génération d'expérience, qu'on a appelée expérimentation, mais je préfère parler d'expérience, moi, qui a conduit à introduire une pédagogie appelée pédagogie convergente, avec un chercheur belge, le professeur Wambach, et qui a permis de créer des écoles d'expérimentation au niveau de ses goûts et qui a démontré très rapidement, grâce à la pédagogie convergente d'apprentissage de la langue maternelle et du français, concomitamment, qu'au bout de 3 ans, l'enfant qui commence dans sa langue maternelle, qui continue en français tout en conservant la langue maternelle, arrive à une maîtrise quasi identique de l'écriture et de la lecture des deux langues en 3-6 ans. Donc, cette expérience était au Mali depuis 87, si ma mémoire est bonne. Et lorsque nous sommes arrivés aux affaires avec la Troisième République, donc en 93-94...
Sous le régime Alpha Omar Konaré.
Oui, la Troisième République, qui avait comme projet la refondation de l'État. C'est-à-dire donc faire en sorte que nous nous approprions tout notre processus, que nous maîtrisions notre propre développement, parce qu'il ne suffit pas d'incriminer le système colonial, il faut proposer des choses, parce que nous avons les affaires, nous sommes aux affaires, c'est à nous de décider. Donc nous avons décidé, donc le Mali a décidé d'introduire les langues nationales progressivement dans le système éducatif et de généraliser cette introduction à partir de l'expérience qui a été très porteuse et qui a été pertinente, puisqu'il y a eu une évaluation à la fois interne et externe. Et cette évaluation externe a été menée même par, à l'époque, la CCT, l'Agence culturelle de coopération technique de la francophonie. C'est pour vous dire qu'en réalité, pour tous ceux qui pensent que promouvoir les langues nationales, c'est être contre le français, les promoteurs du français eux-mêmes ont compris qu'il y avait un partenariat qui pouvait être développé. Donc, c'est à partir de là que la Troisième République, avec le président Alpha Omar Konaré et le premier ministre de l'époque et le président actuel, Ibrahim Boubacar Keïta, que nous avons décidé de généraliser progressivement la pédagogie convergente dans les écoles dans toutes les écoles du Mali. Bon, ce processus est en cours actuellement. Il y a plus de 11 langues qui sont dans le système éducatif, mais avec beaucoup de difficultés, beaucoup de problèmes, ce qui fait que beaucoup de gens se sont dit, mais finalement, ça ne marche pas. Les gens ne savent pas bien maîtriser leur langue maternelle, le français, comme on dit, crébétait encore moins. Donc, ça pose des problèmes, mais c'est un débat qu'il faut clarifier et mettre à plat.
D'accord. Alors, nous allons observer quelques secondes de pause avant de poursuivre avec la deuxième partie du débat.
Vous écoutez Studio Tamani ? Votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux.
Alors, le grand dialogue du Studio Tamani est à sa seconde partie. Nous parlons de l'alphabétisation et de ses impacts au Mali. Cette deuxième partie est consacrée à l'impact socio-économique. Nos invités, Adama Samasekou, ancien ministre de l'Éducation et ex-secrétaire exécutif de l'Académie africaine des langues, Gourou Dial, directeur national de l'éducation non formelle, de l'alphabétisation et des langues nationales, et Kadiatou Babi Maïga de l'Association pour la promotion des jeunes filles déscolarisées. Alors, cette deuxième partie, donc, est consacré à l'impact socio-économique de l'alphabétisation au Mali. On parle beaucoup de société, du savoir, mais on dit beaucoup moins que la production, la transmission et la transformation des savoirs passent presque toujours par l'écrit, que ce soit sur le papier, un écran d'ordinateur ou un téléphone mobile. Les personnes qui ne savent ni lire ni écrire n'ont pas accès à ces circuits du savoir, voire aux informations les plus élémentaires dont elles peuvent avoir besoin dans leur vie quotidienne. Toutes ces difficultés ont-elles des effets sur le développement socio-économique au Mali? Ici, Kadiatou Babi Maïga.
Merci, M. Sidibé. En effet, dans le 20e siècle, le 21e siècle que nous vivons, le siècle du savoir, comme vous le dites, vraiment, je pense que ne pas être alphabétisé, ne pas être éduqué, c'est le plus grand facteur d'exclusion qui puisse exister. Et l'alphabétisation peut très bien se faire de sorte que les gens puissent avoir accès à toute cette technologie. Il suffit tout simplement de mettre les moyens et de faire les recherches nécessaires pour que ce soit accessible. Le charretier, il utilise le téléphone.
Mais de plus en plus de charretiers sont aujourd'hui inscrits à cette éducation non formelle.
Ben voilà, voilà. Donc, justement, vous savez, ça les stimule aussi. Parce que l'alphabétisation, c'est que d'abord, ça enclenche la connaissance. Et ça stimule. Une fois que vous avez cette connaissance, vous devenez beaucoup plus confiant. Et une fois que vous devenez beaucoup plus confiant, vous avez envie de faire plus. Il y a l'autonomisation qui s'ensuit. Donc, c'est tout un processus. Donc, moi, je pense que parler des effets de l'alphabétisation sur le plan socio-économique, je pense que ce n'est même plus à prouver. Dans nos sociétés, surtout dans nos zones rurales, imaginez, regardez toutes ces femmes-là font, tout ce que nos populations rurales, n'est-ce pas, arrivent à faire avec l'alphabétisation, l'agriculture, la transformation alimentaire, n'est-ce pas? Le fait de lire, savoir écrire, ça permet de mieux faire ce qu'on a à faire. Et je pense que l'alphabétisation a fait ses preuves. Le fait de savoir calculer, même son petit commerce, je pense qu'on comprend mieux et on avance mieux là-dedans. Donc je pense qu'il est extrêmement important d'alphabétiser les gens. Et ça a donné des preuves que ça aide à promouvoir le développement économique d'une société.
Okay. Alors, Gourou Dial, vous êtes le directeur national de l'éducation non formelle, de l'alphabétisation et des langues nationales. Est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui, nous schématiser un peu les résultats que votre structure a engrangés depuis sa création?
Depuis que la direction nationale de l'éducation non formelle et des langues nationales a été créée, nous sommes en train de revoir tous les curricula, c'est-à-dire réviser un peu tout le système de formation qui était là sur place, l'adapter à une situation plus favorable et plus adaptée aux réalités des apprenants. Donc nous sommes en train de tout relire et de tout réécrire. dans le domaine des cafés, c'est-à-dire des centres d'apprentissage féminin, on a déjà entamé ça, on a fait une bonne partie. Le programme est un peu révisé, il ne reste pas grand-chose. Et deuxièmement, par rapport au centre d'alphabétisation fonctionnelle, c'est-à-dire les CAF, qui sont soutenus surtout par le programme vigoureux d'alphabétisation, ils sont un peu partout à travers toute la République. Donc ces centres aussi sont suivis par des spécialistes sur le terrain, des représentants des ONG, des partenaires qui mettent en œuvre le programme. On va les relire et puis essayer de les améliorer aussi pour qu'ils soient beaucoup plus appropriés. Concernant les CEI, c'est-à-dire les centres d'éducation pour l'intégration, il existe un centre pour le moment. Il est entre le Mali et le Burkina. Là aussi, on a le programme qu'on est en train de revoir. On l'a revu pratiquement entièrement. Donc c'est pour une durée de 4 ans. On a revu tous les documents. On est en train de les réécrire encore en partenariat avec le Burkina. Donc, concernant le programme, on est en train de tout revoir. On est en train de voir comment trouver aussi de renforcer nos relations avec les partenaires techniques et financiers. On est en train de voir comment mobiliser les partenaires au niveau local pour qu'ils s'impliquent davantage pour la promotion de l'éducation non formelle et de l'alphabétisation. Comment on fait pour qu'ils puissent au moins mettre dans leur programme de développement les activités d'alphabétisation, de formation et autres pour que l'éducation non formelle et l'alphabétisation puissent avoir de l'essor. Donc, les textes aussi régissant l'éducation non formelle ont été élaborés et bientôt seront soumis à qui de droit pour leur adoption.
Okay. Alors, est-ce que ce savoir-là, l'alphabétisation, est valorisé aujourd'hui?
Bon, il y a longtemps que nous sommes dans le système éducatif, là nous avons l'alphabétisation. C'est-à-dire officiellement, c'est un pan important du système éducatif. Dans le Prodex, c'est comme cela qu'on l'a identifié, c'est un pan vraiment important dans le système éducatif. Et l'éducation est considérée formelle et non formelle d'une manière holistique. Donc on ne prend pas un côté et laisser l'autre, c'est une manière globale, on voit tous les systèmes ensemble. Mais malheureusement, la prise en charge fait défaut. Il y a beaucoup d'insuffisances dans ce domaine. Si l'on prend quand même au niveau du budget alloué à l'éducation non formelle, aujourd'hui on a moins de 3% du budget alloué au système éducatif d'une manière générale. Moins de 3%. Depuis la conférence régionale africaine qui a eu lieu ici, en 2007, les 10, 11 et 12 septembre qui avait eu lieu ici, qui avait vu tous les spécialistes de l'éducation non formelle ici, avec la participation des techniciens, avec la participation des premières dames. Les États s'étaient engagés pour vraiment intervenir fortement dans le domaine de l'éducation non formelle et soutenir l'alphabétisation. Donc depuis ces jours jusqu'à présent, de 2007 à maintenant, en 2007, on était à peu près à moins d'1%. On n'avait pas atteint 1%. Et aujourd'hui, on tend vers 3%. Donc il y a un peu d'amélioration, mais ce n'est pas du tout suffisant.
D'accord.
Donc l'intervention n'est pas assez.
Alors, monsieur le ministre veut ajouter quelque
oui.
chose.
Oui, je crois que quand on parle de l'impact socio-économique de l'alphabétisation, il est bon pour nous les Maliens de nous rappeler toute cette période glorieuse de l'alphabétisation fonctionnelle prise en charge par les opérations de développement. Au niveau de l'Office du Niger, au niveau de la zone CMDT, au niveau de la zone Haute-Vallée du Niger, et qui a conduit à une véritable organisation de groupements d'associations paysannes qui ont pu se prendre en charge totalement grâce à leur capacité de lire, d'écrire et de faire leurs opérations de commerce dans leur propre langue. Vous vous souvenez, même les CAFO du Guinée ou tout ça ont été créés à partir de là. En réalité, l'impact socio-économique est énorme. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, pour ceux qui en doutaient encore, on a compris que quand tu fais toutes tes activités naturellement dans ta langue, eh bien, tu progresses assez rapidement. Donc je crois qu'il est important de dire que ce qui nous manque aujourd'hui, c'est de revenir à cette dimension de structuration de l'apprentissage au niveau du monde rural, des langues nationales dans des cadres, peut-être dans le cadre de ce programme vigoureux d'alphabétisation, mais en renforçant la relation avec les opérations de développement, parce que je crois que ça pose aussi le problème des institutions. La dynamique actuelle, la stratégie du Mali aujourd'hui, c'est de le faire faire. Et je crois que c'est important que le Centre national des ressources non formelles puisse être doté des capacités, et peut-être aussi la direction de l'éducation non formelle actuellement, qu'il y ait une réflexion pour pouvoir reprendre cet héritage-là en main et voir comment progresser dans cette matière-là. Je crois que ça, c'est la première chose. Et c'est ainsi qu'on est passé, vous vous souvenez des premiers slogans de l'alphabétisation fonctionnelle, apprendre pour mieux produire, on est passé à apprendre pour mieux s'organiser. Et aujourd'hui, la capacitation des actrices et acteurs à la base, à travers leur langue, a fait la démonstration que les gens peuvent se prendre totalement en main et s'organiser mieux. La deuxième chose que je voulais dire, c'est que en réalité, si nous voyons l'impact de l'alphabétisation dans le milieu rural, nous comprendrons rapidement l'importance qu'il y a à renforcer l'introduction de langue nationale dans le système éducatif, parce que c'est là, par ce biais-là, qu'on peut éradiquer la dichotomie formelle-non formelle. Imaginez qu'autour de chaque école formelle aujourd'hui, où il y a l'introduction des langues nationales, si nous développons des centres d'alphabétisation pour que les parents qui sont autour puissent être alphabétisés dans la langue qui est étudiée à l'école, ça permet aux parents et aux enfants de se retrouver ensemble autour des devoirs des enfants pour pouvoir faire ce que tous les pays du monde font. Les parents accompagnent les enfants, le suivi, ce qui n'est pas le cas. Donc je crois que c'était important de donner ces éclairages-là par rapport à l'impact, j'allais dire, socio-économique, mais aussi sociopolitique et socioculturel de l'alphabétisation telle qu'elle est pratiquée actuellement.
Alors, je rappelle, monsieur le ministre, Damas Massicou, vous êtes ancien ministre de l'Éducation et ex-secrétaire exécutif de l'Académie africaine des langues. Au moment où vous étiez aux affaires, c'était un peu pour poser les jalons dans plusieurs domaines, hein, que ce soit la décentralisation et l'éducation dont vous aviez en charge. Est-ce que vous avez eu l'impression que, quand vous avez quitté la tête de ce département, que les choses étaient un peu en hibernation? Et quel est votre plus grand regret aujourd'hui?
Vous me mettez mal à l'aise là, parce que vous me faites parler de moi-même. Non, mais je crois que, en réalité, non, la question... je crois que ce que nous avons eu à faire au niveau de ce pays, du point de vue de l'éducation de base, c'était la mise en perspective. La chance que nous avons eue à l'époque, c'était que nous avions un président et un premier ministre qui nous soutenaient totalement dans un travail qui était difficile. Parce que lorsque nous avons commencé, beaucoup de gens pensaient qu'en promouvant les langues nationales, on était contre le français. Donc vous comprenez que certaines coopérations n'étaient pas... certaines coopérations bilatérales étaient inquiètes. Il a fallu rassurer tout le monde et surtout nous mettre à l'aise par rapport au schéma que nous avions proposé pour le pays. C'est ainsi que l'idée... De proposer la refondation des systèmes éducatifs pour articuler avec la refondation de l'État a été une idée qui a été, j'allais dire, propagée à travers la conférence des ministres de l'éducation des pays, hein, le français en partage, la CONFOMEN, et s'est retrouvée pratiquement en France. Parce que avant notre époque, en France, on ne parlait pas de refondation de l'éducation. Je dois dire, c'est important de le dire, hein, c'est, l'Afrique a donné à nos cousins de l'autre côté, cette perspective d'articuler refondation avec l'éducation. Il est vrai que le meilleur acquis que nous avons eu, c'était quand même de prolonger l'expérience qui n'a pas, pour plusieurs raisons,
abouti,
parce que c'est long à expliquer, l'expérience de la refondation à travers la nouvelle école fondamentale, la NEF, qu'évoquait ma fille Kadi tout à l'heure, qui était une perspective pour la nouvelle école malienne, la NEM, cette expérience a pu être transposée au niveau de l'ensemble du système éducatif à travers le PRODEC, le Programme décennal de développement de l'éducation, qui était une perspective de vision de l'éducation avec l'appui de la Banque mondiale sur 10 ans. Ce qui a permis de prendre en héritage ce que nous avons tenté au niveau de la nouvelle école fondamentale, en particulier, je crois qu'il faut le dire, la vision que nous avons de l'école malienne, ce qui aboutit à l'adoption de la loi d'orientation sur l'éducation, avec son article 11, qui donne la finalité de l'éducation, qui était en réalité la finalité que nous avons définie pour la nouvelle école fondamentale. Donc, ça, c'est un acquis important. La restructuration aussi de l'éducation, en termes de déconcentration, pour articuler avec la décentralisation, d'allègement des structures centrales, tout ça, c'est aussi des acquis. La création des CAP, les centres d'animation pédagogique, c'est aussi des acquis que nous avons laissés à cette dimension-là. Malheureusement, la vision, avec les changements, a eu des pertes en route. Les ruptures, c'est toujours comme ça. Il y a D'accord. toujours des pertes que nous avons. Mais je suis confiant aujourd'hui en la possibilité que nous avons de reprendre le cheminement, puisque le cœur de notre fondation, c'était quand même l'utilisation des langues nationales comme socle de l'enseignement. C'est-à-dire développer un enseignement multilingue fondé sur la langue maternelle. Et aujourd'hui, plus que jamais, c'est d'actualité. Et je crois que nous aurons l'occasion peut-être d'en parler avant la fin de l'émission. Nous sommes dans une perspective de reprendre un peu tout l'héritage que le Mali a eu à construire depuis l'indépendance.
Okay. Bon, pause tardive, mais mieux vaut tard que jamais.
Une réaction.
Un avis.
Un commentaire.
Réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous.
Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre.
Nous sommes à la troisième partie du Grand Dialogue du Studio Tamani consacré à la question de savoir si le Mali a les moyens aujourd'hui pour renforcer son programme d'alphabétisation. Nos invités, Adama Sambasekou, ancien ministre de l'Éducation et ex-secrétaire exécutif de l'Académie africaine des langues, Gourou Dial, directeur national de l'éducation non formelle, de l'alphabétisation et des langues nationales, Kadiatou Babi Maïga de l'Association pour la promotion des jeunes filles déscolarisées. Alors cette troisième partie débat de la question, le Mali a-t-il les moyens aujourd'hui pour renforcer le programme d'alphabétisation? Alors, l'alphabétisation est une composante à part entière des efforts pour résoudre les grands défis mondiaux, sécurité alimentaire et production agricole, VIH/SIDA et autres épidémies, croissance économique et relations interculturelles. Pour pouvoir apprendre et acquérir de nouvelles compétences, il faut impérativement savoir lire et écrire. Le Mali pourra-t-il relever ce défi du millénaire pour le développement global?
Merci. Le Mali, bien sûr, c'est avec tous les pays du monde pour relever ce défi. Donc le Mali seul va se débrouiller avec toutes ces difficultés.
Est-ce que vous avez suffisamment de moyens?
Oui, on va les chercher. On va les chercher. Les moyens, c'est quoi? C'est le moyen humain, c'est le moyen matériel, financier. C'est le moyen financier et puis tout ensemble. Donc les moyens, il faut les avoir, il faut les chercher. Donc il faut aussi qu'il y ait la volonté surtout. Aujourd'hui, si on parle de moyens, peut-être financiers, peut-être que si on prend l'exemple du programme vigoureux d'alphabétisation qui est totalement financé par notre pays, par le budget national, ça c'est déjà un cas qui peut quand même nous prouver qu'on peut vraiment agir dans ce domaine. Il ne s'agit pas peut-être de croiser les bras, dire qu'on attend toujours les partenaires techniques et financiers pour, dans ce domaine-là, prendre tout en charge. Ça, on ne pourra pas atteindre les objectifs du développement du millénaire. Ça, c'est sûr, les partenaires peuvent faire leur part, mais il faudrait bien que nous-mêmes, l'État particulièrement, et les communautés à la base, que chacun s'implique par tous les moyens. Mais je crois que ça ne serait pas très facile. Parce qu'avec le niveau d'instruction, le niveau d'éducation, le niveau de formation, il y aura toujours des handicaps, il y aura toujours des blocages qui vont retarder le processus. Et ça ne serait pas maintenant, c'est sûr.
Alors, Kadiatou Babi Maïga de l'Association pour la promotion des jeunes filles déscolarisées, présentez-nous un peu cette association et qu'est-ce qu'elle fait dans le sens de. Voilà, dans cette dénomination que vous mettez sur cette association, la promotion des jeunes filles déscolarisées.
Merci énormément. Je ne savais pas que vous alliez me donner cette opportunité. Elle est la bienvenue. Ben voilà, c'est une association à statut d'ONG. Association pour la promotion des filles déscolarisées, qui a été créée en 1997 et qui a pour objectif majeur d'aider les enfants généralement et les filles en particulier qui n'ont pas pu continuer leur cursus scolaire ou qui n'ont pas eu accès au système, n'est-ce pas, de pouvoir faire quelque chose d'utile de leur vie, de pouvoir apprendre, justement. Donc, ça passe par l'alphabétisation pour la plupart d'entre eux. Et puis, et les compétences de vie, l'apprentissage des compétences de vie. Également, l'éducation civique, parce que ceci est extrêmement important, encore plus aujourd'hui. Donc, c'est une association qui est à Bamako, mais qui réagit également dans les régions nord du Mali, les trois régions nord du Mali, plus Koulikoro. Donc, nous travaillons avec les filles, les jeunes femmes. Donc, nous faisons beaucoup dans la santé de la reproduction, parce que nous travaillons avec des femmes qui sont à l'âge de procréer. Et pour faire un peu le lien, je vous dirais que, encore une fois, l'UNESCO vient d'annoncer qu'entre 1999 et 2009, 2 millions d'enfants ont été sauvés parce que leurs mamans ont eu accès à l'alphabétisation. Elles ont compris vraiment comment faire face aux risques, vraiment comment éviter certains problèmes, vraiment pour que ces enfants puissent être là, vraiment. Donc, à profit, c'est une association donc, qui contribue à la promotion des filles déscolarisées, des femmes, des enfants en situation difficile, donc des enfants de la rue, les enfants déscolarisés, les garçons et les filles. Également promouvoir la santé de la reproduction et qui fait le plaidoyer pour la prise en compte du genre.
Alors, quelles sont vos sources de financement?
Oh, c'est le partenariat, la cotisation, nos activités que nous menons, souvent nous-mêmes, parce que vous savez, tout financement. Les ressources ne sont pas que financières. Généralement, c'est ce qui bloque les gens. Il y a tellement de choses qu'on peut faire en contribuant personnellement avec les expertises des uns et des autres. Et nous sommes une association qui n'a pas suffisamment de ressources financières actuellement, mais qui a une grande expertise. Parce que les gens qui sont autour, quand même, ont une certaine expérience et elles sont vraiment, ces personnes-là, prêtes à mettre cette expérience au service de l'association. Nous fonctionnons comme ça. Mais nous avons quelques partenaires aussi, quand même. Donc, que nous ont aidés jusqu'à présent. Et bon, voilà.
Alors, Monsieur le ministre, je me tourne vers vous, Adama Samassifou, ancien ministre de l'Éducation et ex-secrétaire exécutif de l'Académie africaine des langues. Quand vous avez quitté les affaires, vous n'êtes pas resté éloigné de ce que vous faisiez à l'époque. L'Académie africaine des langues, qu'est-ce que cela, à quoi cela équivaut?
L'Académie africaine des langues est une initiative du Mali qui a été menée par le président Konaré à l'époque, qui a estimé qu'il fallait doter le continent d'un instrument de valorisation des langues nationales, des langues africaines. Donc, il nous a confié la responsabilité d'une mission pour la mise en place de l'Académie. Et l'Académie a été mise en place au niveau malien, d'ailleurs, le 8 septembre 2001. Pour rendre hommage aux alphabétiseurs et à l'alphabétisation, parce que dans nos pays, c'est par l'alphabétisation que nos langues ont été valorisées jusqu'ici. Donc, en 2006, l'Académie africaine des langues est devenue une institution panafricaine, avec le siège à Bamako, et j'ai passé le relais en tant que secrétaire exécutif à mon collègue mozambicain, le professeur Sezinho Matsinye, qui a aujourd'hui en charge cette académie. C'est la plus haute institution au niveau continental, en tant que structure scientifique, qui a en charge l'appui aux différents États pour la formulation et la mise en place de politiques linguistiques qui soient articulées avec la charte de la Renaissance culturelle africaine qui a été révisée en 2006 et le plan d'action linguistique qui prône le développement de nos langues africaines pour en faire des langues de travail dans tous les domaines de la vie publique, en partenariat avec les langues héritées de la colonisation. C'est la vision de l'Académie africaine des langues pour mettre en place à travers le continent, dans chaque État membre, cette perspective. De ce point de vue, le Mali, qui a initié cette institution, a pris les devants et depuis le forum de l'éducation, le ministre en charge de l'éducation à l'époque, le professeur Salikou Sanogo, a commis une équipe que j'ai eu l'honneur de diriger pour élaborer un document de politique linguistique du Mali, qui est actuellement sur la table du gouvernement, et qui, j'espère, pourra être adopté assez rapidement, qui va montrer aux autres États africains la voie, comme le Mali l'a fait jusqu'ici d'ailleurs, en matière de promotion des langues africaines et des langues nationales, ce qui permettra à notre pays de se doter des moyens nécessaires pour éradiquer cette dichotomie formelle-non formelle. Vous parliez de cela tout à l'heure en disant est-ce qu'on a les moyens pour l'alphabétisation ? Nous avons les moyens. Nous avons les moyens parce que le premier moyen, c'est la volonté politique. Une fois...
Pensez-vous qu'elle y soit aujourd'hui ?
Oui, elle y est. Il n'y a pas de raison qu'elle n'y soit pas. Elle y est. Non, je le dis avec beaucoup de force parce que je crois que l'espoir que nous avons aujourd'hui, c'est le fait que nous avons à la tête de l'État l'ancien Premier ministre du Mali qui, avec le président Konaré, avait donc initié tout ce processus de refondation de l'État malien avec la décentralisation. Laquelle décentralisation ne peut pas être viable sans l'utilisation des langues nationales. Et qui, dans son discours aujourd'hui, parle de dignité des Maliens et de bonheur du Mali et de bonheur des Maliens. On ne peut pas faire la dignité des Maliens sans restaurer aux Maliens leur identité culturelle. On ne peut pas faire la dignité du Mali, on ne peut pas prendre la dignité du Mali si on ne rend pas au Mali sa souveraineté linguistique. Cela dit, il ne s'agit pas de prôner une démarche contre la langue française. Il s'agit de faire en sorte que dans notre constitution, on puisse revisiter cette constitution en disant les langues d'expression, les langues nationales et le français sont les langues d'expression officielles au niveau du Mali. Donc ce document de politique linguistique va dans ce sens-là et nous sommes convaincus que le président et le premier ministre actuel vont certainement aller dans ce sens-là parce que c'est le support nécessaire. Et juste pour terminer de ce point de vue, je pense que pour revenir à l'Académie africaine des langues, le Mali a initié l'Académie, mais avant l'Académie, le Mali a initié aussi la Fondation 40A. Et je crois que c'est important de le dire, c'est-à-dire que dans notre souci de faire en sorte que nous ne restions pas sur l'héritage colonial, un certain nombre de ministres de l'éducation à l'époque, dont nous-mêmes, nous avons estimé qu'il était important de doter nos pays d'une institution qui va formaliser la politique d'éducation non formelle dans la perspective de prendre en charge notre propre éducation non formelle pour pouvoir arriver à une éducation de base unifiée. En réduisant le gap entre le formel et le non formel. Parce qu'à l'époque, peu de structures finançaient l'alphabétisation. Donc la Fondation 40 a été créée dans ce sens-là. Et les centres d'éducation pour l'intégration ont été initiés justement pour pouvoir à la fois assurer l'intégration.
Combler le vide en quelque sorte.
Oui, assurer l'intégration de notre continent au niveau de la sous-région. Et aussi développer l'utilisation de nos langues nationales dans les différentes structures éducatives. Donc, aujourd'hui, le Mali, qui a initié à la fois 40 ans et l'Akalan, a les moyens politiques pour aller de l'avant. Il y a aussi les ressources humaines, parce que vous avez même autour de cette table, vous avez vu, vous avez les ressources humaines qu'il faut. Il y a l'Académie malienne des langues qui a été créée entre-temps, parce que la DENAFLA a donné naissance à l'ILAB, l'Institut des langues Ablaï Bari, qui a donné naissance aujourd'hui à l'Académie malienne des langues, qui est le point focal de l'Académie africaine des langues au niveau du Mali, et qui va mettre en œuvre cette politique voulue par l'Union africaine et accompagnée par l'Académie africaine des langues. Donc, les ressources humaines, elles existent, mais elles sont éparpillées, parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup de linguistes qui, faute d'orientation, sont allés vers les ONG, font autre chose que de développer leur langue. Lorsque le Mali va adopter une loi officialisant les langues nationales, ça va être un levier extraordinaire pour attirer tous les acteurs qui ont le souci de promouvoir leur langue et qui vont se mettre dans la perspective de la décentralisation à développer localement leur langue dans une perspective d'unité nationale, puisque nous prenons pour cela une approche que nous avons appelée multilinguisme fonctionnel convivial, qui est basée sur une langue identitaire, une langue de communication régionale et une langue de communication internationale.
Merci beaucoup. Difficile d'interrompre le doyen quand il est lancé dans ces explications qui nous font beaucoup plaisir et qui nous édifient davantage. Et chers auditeurs, j'espère que tout ceci vous a amplement édifié sur l'alphabétisation et ses défis au Mali. Merci à vous mesdames, merci messieurs pour toutes ces explications et ce débat donc s'achève. Merci à vous d'avoir été des nôtres. Ce grand dialogue réfléchit commissaire sur la question de l'alphabétisation et ses impacts au Mali. Nous avons fait le lien entre l'alphabétisation et l'éducation formelle dans le pays. Nous avons vu ensemble quels en étaient les impacts socio-économiques. Et nous avons également vu les moyens du Mali à renforcer son programme d'alphabétisation. Je suis Famoussa Sidibé, Adama Samasekou, ancien ministre de l'Éducation et ex-secrétaire exécutif de l'Académie africaine des langues était parmi nous. Également ici, Gouro Dial, directeur national de l'éducation non formelle, de l'alphabétisation et des langues nationales, Kadiatou Babi Maïga de l'Association pour la promotion des filles déscolarisées. Merci à vous pour votre disponibilité. Je suis Famoussa Sidibé, Peting Diara était à la mise en onde. Ousmane Diadé Touré a réalisé cette émission. Nous vous disons à demain pour un autre débat.
Le Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chenne Biro.
Halou Dmoundi.
Chenne Biri. Sigi Kafoba.
Le Grand Dialogue.
Le Grand Dialogue.